Moi, j'ai des poils. Oups.
Je me disais, mais comment elles font là? Elles sont toujours avec la police.
La norme, c'était pas de poils.
Non, mais je veux pas m'épiler, ça me fait trop mal. Quand je me suis rendu compte que je les rasais plus, j'étais là, oh waouh, je suis une femme nouvelle.
Cette réflexion, elle est née d'un engagement aussi politique.
Laisse tes poils faire leur vie et tu verras, tout se passe bien.
Déjà, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et puis, pourquoi?
Occupez-vous de vos poils.
Dégueu!
Ah mais limite, t'as plus de poils que moi!
Mais personne veut te baiser avec tes vieux poils.
Chewbacca!
Sale crado, hein.
Ça, c'est des exemples de phrases bien violentes que j'ai pu entendre ces dernières années. Car oui, je suis une femme poilue. Je me balade dans la rue, les jambes et les aisselles touffues. En été, je les laisse apparents et j'observe les têtes surprises, amusées, voire parfois même outrées. Je m'appelle Neila, j'ai 28 ans, et aujourd'hui je ne me vois plus vivre sans poils. Je sais que cette phrase peut surprendre ou choquer, mais mine de rien, on est de plus en plus nombreuses à avoir stoppé l'épilation. Selon une enquête de l'IFOP réalisée en 2021, le premier confinement a eu un impact sur les pratiques dépilatoires chez les femmes. Une Française sur 10 affirme moins s'épiler certaines parties du corps depuis cette période. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le collectif Liberté, Pilosité, Sororité a encouragé à profiter de l'éloignement du regard des autres pour arrêter de s'épiler. Par la suite, en septembre 2020, le hashtag « Je garde mes poils » a émergé sur Twitter. Les journalistes Léa Taïeb et Juliette Lanrouy expliquent dans le chapitre 1 de leur livre « Parlons poils, le corps des femmes sous contrôle » que des dizaines et des dizaines de femmes ont partagé leur pilosité sur ce réseau social pour exprimer leur solidarité envers une jeune fille qui avait été cyberharcelée parce qu'elle portait ses poils. Cet élan de libération des poils ne se cantonne pas uniquement à la France. C'est un phénomène qui se produit également dans d'autres pays, et ce depuis plusieurs années déjà. En 2012, les Suédoises dénoncent le diktat du glabre sur Twitter grâce au hashtag RJ, la révolte des poils. En 2018, Laura Jackson, une étudiante britannique, lance le hashtag January en référence au Dry January qui consiste à laisser pousser ses poils en janvier. Malgré toutes ces initiatives nées sur Internet et les réflexions qu'elles amènent sur la pilosité, réussir à se détacher des injonctions de beauté n'est pas tâche facile. Personnellement, mon rapport au poil a été tellement compliqué pendant de nombreuses années que le fait de réussir à vivre sereinement avec eux, c'est presque un exploit. Et pour comprendre pourquoi est-ce que j'emploie un mot aussi fort, il faut remonter des années en arrière, dans ma jeune adolescence, à une époque où je n'avais même pas encore conscience que mes poils pouvaient poser problème. J'avais à peine 13 ans quand une expérience liée à mes poils a commencé à façonner mon rapport à mon corps. J'étais en vacances avec mon père et sa copine de l'époque. Je ne me souviens plus du contexte exact, mais je devais probablement avoir un rasoir que j'utilisais déjà de temps en temps, car comme tout le monde, j'avais compris malgré mon jeune âge que les poils étaient un attribut masculin. Quand apparaît la puberté et que les poils se noircissent, il faut commencer à retirer ceux qui sont visibles. C'est comme ça, on ne se pose pas plus de questions. Nos mères, nos sœurs, nos amis le font, alors on le fait aussi. Ce jour-là, j'étais au soleil, en train d'apprécier mes jambes glabres. J'étais contente, je me sentais grande, je me sentais femme. Ma belle-mère, en passant, m'a vue et s'est attardée sur mes jambes.
Tu devrais pas t'épiler. D'abord, t'es bien trop jeune pour ça, et puis en plus, quand ça va repousser, tu vas voir. Tu vas ressembler à un yéti. C'est ce que tu veux ?
Jusque-là, je n'avais jamais reçu de commentaires sur mes poils, ni par les enfants, ni par les adultes. Comme je le disais juste avant, j'avais remarqué que les femmes, contrairement aux hommes, n'avaient pas de poils, mais je ne les avais pas encore associés à quelque chose de négatif. Cette différence entre les corps féminins et masculins n'est pas anodine. Elle correspond à une norme sociale largement partagée. En France, selon l'enquête de l'IFOP évoquée plus tôt, la grande majorité des femmes déclarent s'épiler au moins une partie du corps, contrairement aux hommes. Ces pratiques commencent souvent tôt, dès l'enfance ou l'adolescence. Les sciences sociales montrent que l'épilation féminine s'inscrit dans un apprentissage progressif des normes de genre, bien avant qu'il soit question d'un choix individuel pleinement conscient. Le fait que ma belle-mère me dise que j'allais ressembler à un yéti à la repousse m'a profondément marquée. Ça m'a fait peur même. Personne ne veut ressembler à un yéti. Moi, si j'avais commencé à me raser, ce n'était pas parce que je trouvais ça moche ou sale, c'était juste pour faire comme les grandes. Celles de la vie de tous les jours, mais aussi celles qui passent à la télé ou qui sont affichées sur les panneaux publicitaires. Mais ce jour-là, quand elle a prononcé cette phrase, j'ai compris qu'avoir des poils longs et bruns, c'était quelque chose de repoussant. Alors, au lieu de ne plus me raser comme elle le voulait, j'ai commencé à faire la chasse aux poils pour ne jamais ressembler à un yéti. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir subi des commentaires péjoratifs sur mes poils. Nous sommes nombreuses à en avoir reçu. C'est même bien souvent l'élément déclencheur qui nous pousse à tous les retirer. Pour illustrer ce que je raconte et apporter différents points de vue ou diverses expériences, j'ai rencontré plusieurs femmes pour recueillir leurs témoignages concernant leur rapport à leur pilosité. J'ai décidé de n'interviewer que des femmes qui ne s'épilent pas ou plus, ou alors qui laissent pousser leurs poils de temps en temps. Malheureusement, aucune personne racisée n'a répondu à mon appel à témoignage. Vous écouterez donc les récits de personnes blanches. J'ai bien conscience que ce n'est pas représentatif de la diversité de notre société et que les personnes racisées vivant du racisme peuvent rencontrer davantage d'obstacles que les personnes blanches dans leur projet de laisser pousser leurs poils. J'avais néanmoins très envie de mener ce podcast à bien, car comme vous l'aurez compris, la thématique des poils a eu, et a toujours, un rôle central dans ma vie. Je vous laisse donc avec les récits de mes invités. Elles vous parleront des remarques et des moqueries qu'elles ont reçues quant à leur pilosité et qui ont marqué leur rapport à leur corps.
Je m'appelle Marine, j'ai 37 ans, voilà, et je suis creusoise. Je pense que oui, j'en ai eu des réflexions au collège, au lycée, notamment du fait que bah, je suis brune. Donc forcément, les poils au niveau des bras se voient bien. Et puis, bah, pas des. Enfin, je sais pas, j'avais pas ce même rapport. Épiler les poils des jambes, ok. Les poils des bras, non. Du coup, oui, j'ai déjà eu des. Enfin, on m'a déjà comparé à un petit singe, enfin, voilà, des choses gorilles, même. Voilà. Et encore, j'ai de la chance, j'ai pas forcément, même si je suis brune, j'ai pas trop de pilosité sur le visage, donc je pense que j'ai échappé au pire, quoi. Oh, bah, ça m'a fait mal, oui. Ouais, je pense que j'ai jamais réussi à m'en foutre, en fait. J'ai mis très longtemps sur plein de choses à me dire que bah, la vie des autres, c'est la vie des autres, et puis voilà, quoi. Puis bon, quand on est adolescent, c'est pas évident de se dire, bah, en fait, c'est mon corps, c'est moi qui décide, et les autres, leur avis, je m'en bats les steaks.
Bonjour, alors moi, c'est Justine, et aujourd'hui, j'ai 27 ans. Alors, j'ai pas reçu dans mon souvenir, alors peut-être qu'il y en a eu, en tout cas, elles m'ont pas marqué, mais c'était plutôt le fait de faire comme tout le monde, que c'est comme ça, en fait, qu'il faut faire, et c'est comme ça que je dois ressembler pour être belle et pour être une fille belle. Mais en tout cas, c'était pas des moqueries, quoi. C'est juste que je voulais faire comme mes copines et que je me disais, mais comment elles font, là? Elles sont toujours avec la police, sans pouce de poils, sans poils incarnés, sans rougeur. Moi, je me souviens d'avoir plein de points rouges assez souvent.
Alors moi, je m'appelle Léa et j'ai 27 ans. J'ai pas reçu de moquerie parce que je l'ai devancée en cherchant vraiment à cacher, à avoir ce corps complètement imberbe, etc. Et c'est vrai que du coup, bah, j'y ai échappé, entre guillemets, et j'avais pas vraiment de moquerie ni même de commentaires dessus parce que bah, du coup, il y avait plus rien à voir. Mais à côté de ça, ça veut dire que t'as une gamine de, allez, 10-12 ans qui a une charge mentale débile sur le fait que, ah là, ça commence à repousser un peu brun, va falloir vite racheter je vais pas dire le nom de la marque, mais je vois exactement, je me rappelle cette boîte bleue là. Et je trouve ça terrifiant que, en fait, c'était tellement plus normal de cacher les poils que vraiment ça ne choquait personne qu'une gamine se décolore à... enfin c'est de la javel quoi et que vraiment décolorer sa peau avec les poils plutôt que d'avoir l'air pas comme les autres jeunes filles.
Je m'appelle Jessie et j'ai 37 ans. C'est une petite anecdote qui date du collège. C'est un moment où c'est pas évident, voilà, on commence à changer, c'est la puberté. En fait, on est dans le vestiaire parce que on vient de faire du sport et c'était un vestiaire mixte parce qu'en fait, on n'avait pas besoin de se changer. Mais moi, en fait, à ce moment-là, c'était les beaux jours et j'avais un pantacourt. Je sais plus comment c'est venu, mais il y a un garçon de ma classe qui a commencé à dire ah mais t'as des poils, enfin et en fait donc je pense que j'étais pas la seule, mais lui il m'a pointé du doigt et en fait il y a eu vraiment une sorte de moquerie à ce moment-là et avec d'autres filles tu sais les filles un peu plus populaires enfin voilà et donc c'est là que j'ai réalisé que j'avais des poils et que c'était pas ouais, que c'était pas hyper ami que je les ai, alors que en fait moi je m'en préoccupais pas trop et que j'avais pas du tout honte de porter mon pantacourt. Mais après j'ai eu honte, du coup.
Dans un article intitulé « Dressage au collège, comprendre par l'humiliation qu'il faut s'épiler », publié sur Rue 89, Catherine Monod, anthropologue sociale et chercheuse à l'EHESS, explique que les critiques et agressions verbales sur la pilosité font office d'éducation pour accéder à la norme de la féminité. Elle poursuit en parlant d'un rappel à l'ordre qui passe souvent par l'humiliation et ajoute qu'on apprend les codes sociaux et la norme par tout ce qu'il ne faut pas faire. La mise en garde que j'ai reçue concernant ma potentielle transformation en yéti et toutes les critiques évoquées par mes invités rendent bien compte de cette éducation par l'humiliation. Dans mon cas, pour éviter d'éventuelles critiques, j'ai choisi de continuer à m'épiler les jambes, les aisselles et les sourcils. Il fallait qu'aucun poil ne dépasse. Tout devait être lisse. Plus tard, j'en reparlerai, j'ai commencé à faire de même sur le pubis. Je me suis donc mise à utiliser le rasoir, technique rapide et efficace, surtout quand on a peur d'avoir mal. Ce n'est peut-être pas la meilleure méthode pour éviter les poils incarnés ou les coupures, mais c'est celle qui est à portée de main de toute jeune adolescente. Un rasoir posé sur le rebord de la baignoire ou sur le porte-savon de la douche et l'affaire est pliée. Jusqu'à ce que je remarque, des années plus tard, vers l'âge de 15 ans, que ma mère utilisait un tout autre appareil pour retirer ses poils. L'épilateur électrique. Elle avait l'air de s'épiler moins souvent que je ne me rasais, et je voyais que sa peau était moins abîmée que la mienne. Je lui ai donc demandé de m'apprendre à l'utiliser. Léa Taïeb et Juliette Lanrouilly, pour écrire leur livre Parlons Poil, ont créé en novembre 2019 deux questionnaires qu'elles ont diffusés sur les réseaux sociaux. Le premier s'adressait aux femmes et a recueilli plus de 1700 réponses, et le second, destiné aux hommes, en a recueilli plus de 600. Elle précise que les résultats obtenus ne se veulent ni scientifiques, ni impartiaux. Les femmes qui y ont répondu ont fait ressortir à travers leur expérience trois types de mères. La bienveillante, celle qui au moment de l'apparition des premiers poils accompagne sa fille dans l'épreuve de l'adolescence et qui met tout en œuvre pour que sa progéniture se sente bien dans son corps. Celle qui aimerait que sa fille lui ressemble et soit à son image, et celle qui met la pression à sa fille, qui la malmène psychologiquement et traque sa pilosité de façon obsessionnelle, voire qui la force à s'épiler sans lui laisser le choix. Ma mère faisait partie de la première catégorie. Elle ne m'a jamais mis la pression quant à mes poils. Elle ne m'a jamais fait de réflexion sur ma pilosité, elle ne m'a jamais ni forcé ni incité à quoi que ce soit. Par contre, quand je lui ai demandé à l'âge de 15 ans de m'aider à m'épiler les jambes et les aisselles à l'épilateur électrique, elle a accepté sans rechigner. Je pense que ça devait même lui faire plaisir de pouvoir m'accompagner dans cette étape de mon adolescence. Car oui, les poils, dans de nombreux cas, sont une histoire de transmission d'une mère à sa fille. Dans le chapitre 6 du livre « Parlons poils » évoqué précédemment, les journalistes expliquent que les mères ont un rôle fondamental dans l'initiation à l'épilation et dans la perpétuation de ce rituel de beauté. Elle cite ensuite la politiste, autrice et conférencière Marie-Cécile Nave qui explique que dans une société où les stéréotypes de genre sont très présents, la mère prend en charge la santé et l'hygiène, tandis que le père aura plus tendance à transmettre la passion du sport, les traditions se transmettant souvent de mère à fille et de père à fils. Jessie.
J'avais ma mère derrière quand même qui ne m'autorisait pas à faire certaines choses. Pour elle, j'étais trop jeune pour m'épiler ou me raser. comme elle m'interdisait à ce moment-là de me maquiller. Donc, c'est venu un petit peu plus tard, je pense à partir de la troisième ou même du lycée, début lycée, quoi. La première fois que je me suis épilée, j'ai pu le faire parce qu'elle m'y a autorisée. Parce que déjà, bah, il fallait que je m'achète le matériel. Et qu'à ce moment-là, bah, je n'avais pas vraiment d'argent de poche. Enfin, je ne pouvais pas me le payer moi-même. Donc, ça a été, j'imagine, une négociation de plusieurs mois, voire années peut-être. Bah ouais, elle m'a montré comment on faisait. Enfin voilà, dans mon souvenir, on est toutes les deux sans ma première épilation. Et puis après, je me débrouillais toute seule.
Léa.
Alors, moi, ma mère, elle n'était pas du tout dans une démarche à encourager le fait de cacher les poils. Mais elle n'était pas non plus dans une démarche pédagogique pour expliquer que c'était OK d'avoir des poils, que c'était pas grave, etc. Parce que, sincèrement, je pense que même aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'elle pense sincèrement. Mais pas d'une manière qui va se vouloir oppressive, en mode « je pense ça, donc tout le monde doit cacher ses poils ». Mais plus que tu vois qu'elle n'a pas envie d'avoir des poils, je l'ai toujours connue se raser. Genre, moi, j'ai toujours vu le rasoir dans la douche. Je trouvais que c'était le rasoir de maman. Et du coup, il y a un peu cette idée que... C'est un peu comme ça que c'est, sans pour autant, du coup, être dans une sorte de pressurisation, je sais pas comment dire, où elle nous aurait obligé avec ma sœur à nous épiler ou nous raser, ou c'était pas du tout le cas. Mais par contre, c'est vrai que quand on a commencé à vouloir cacher nos poils, c'était normal. Et c'était plus après des questions de, OK, bah, il y a l'épilation, elle emmenait beaucoup ma sœur, du coup, chez l'esthéticienne pour se faire vraiment épiler. Moi, ça me faisait peur parce que j'étais une chouchotte. Donc, au début, c'était bien, du coup, la crème décolorante. Puis, j'ai fini par commencer à me raser. Et du coup, c'était plus une démarche d'accompagnement par rapport à ça, me dire, OK, ça, quand tu te rases, faut faire ça, nanana, nanana. Mais à aucun moment, il y a eu une question de, peut-être qu'il y a d'autres options que de s'épiler.
Justine.
Globalement, par rapport à ma mère, son point de vue sur nos poils était assez neutre. Je ne sais pas si c'est le neutre ou sobre. En tout cas, elle essayait de rassurer ma sœur parce que ma sœur avait l'impression de ressembler à un homme. Enfin, c'est un peu fort, mais de se rapprocher de la gente masculine parce qu'elle avait des poils. Ce qui, du coup, nous semble complètement aberrant aujourd'hui. Et en tout cas, elle essayait de beaucoup rassurer ma sœur parce que elle-même étant brune, elle comprenait plus son problème, quoi. Moi, j'avais les poils plus clairs. Elle essayait de me rassurer aussi, mais elle nous accompagnait dans le fait de nous épiler parce que c'est ce qu'on voulait. Mais elle venait pas forcément nous expliquer de laisse tes poils faire leur vie et tu verras, tout se passe bien. Puisque elle-même se raser en fait de manière très régulière les jambes, il y avait ce temps. On savait que on faisait du mimétisme par rapport à d'autres mères, où bah oui, de temps en temps dans la semaine, il faut un temps où il faut s'enlever les poils parce que ça fait partie de la routine beauté qui fait que ça montre que tu prends soin de toi, ce genre de choses. Du coup, elle nous accompagnait un peu là-dedans.
Marine.
J'essaye de processer un peu, je me rappelle pas est-ce que... Oh, si, je crois que la première fois, c'était avec maman, et c'était avec l'épilateur, et que j'ai douillé sa race de ouf, et qu'après, je piquais des rasoirs en mode « Non, mais je veux pas m'épiler, ça fait trop mal, mais je veux quand même pas de poils. » Donc du coup, rasoir. Quitte à piquer le rasoir du pater pour... Non, puis c'était les vieux épilateurs, là, mon Dieu, à ressort et tout, et mais il faut souffrir pour être belle. Mais non, mais on souffre pas à 14 ans, en fait, c'est ma monie.
On s'est donc installés, ma mère et moi, dans la salle de bain, assises sur le sol toutes les deux. J'ai retiré mon pantalon et je lui ai montré mes jambes poilues. Elle a branché l'épilateur électrique et a actionné l'appareil. Le bruit d'une tondeuse à gazon a retenti. Mes yeux se sont écarquillés et mon estomac resserré. On aurait dit une machine de guerre, prête à m'arracher la peau. Ma mère a pris l'épilateur dans sa main et s'est approchée de moi. Je lui ai crié d'arrêter avant même qu'il ne m'ait touché. J'avais trop peur d'avoir mal. Un bruit pareil ne pouvait que signifier une douleur intense. Ma mère a fini par couper le moteur de cet appareil de torture. On a parlé et elle m'a rassurée. Elle m'a dit que ça ne faisait pas si mal que ça. Elle a donc à nouveau allumé l'épilateur électrique. J'ai fermé les yeux, serré les dents, jusqu'à ce que je me mette à nouveau à hurler comme si je ressentais déjà la douleur, alors qu'il ne m'avait toujours pas approché.
Non mais Bibiche, c'est pas possible. Je refuse de t'aider à souffrir. Si l'épilateur électrique te fait peur à ce point, on arrête. Tu hurles rien qu'au bruit. Je refuse de participer à cette torture.
J'ai donc continué à me raser pendant plusieurs années, jusque-là trop effrayée par cet appareil si bruyant. J'avais des repousses rapides, je me blessais souvent au niveau des chevilles, j'avais des poils incarnés et la peau sèche, mais au moins, je ne souffrais pas. Enfin, pas physiquement. Parce que la violence ne passe pas toujours par la douleur. Elle passe aussi par ce qu'on voit, par ce qui est montré, et surtout par ce qui ne l'est pas. Vous l'avez déjà certainement remarqué, mais les représentations de femmes poilues sont quasiment inexistantes, pour ne pas dire totalement. Ça n'aide évidemment pas à envisager la possibilité de laisser pousser ses poils en grandissant. On a l'impression que les poils chez les autres n'existent pas, alors ils ne devraient pas exister chez nous non plus. Léa.
Les poils, c'était juste même pas une question. En fait, avant que je commence à en avoir, pour moi, c'était vraiment les femmes n'ont pas de poils. Comme si c'était une sorte de... Enfin, certains animaux qui ont les mâles, les plumes roses et, je sais pas, les femelles, les plumes vertes. Du coup, c'était vraiment pour moi, une femme n'a pas de poils. Enfin, parce que de toute manière, on grandit avec les représentations qu'on a. Et même autour de moi, c'est vrai que les enfants n'avait pas de poils du tout, même quand moi j'ai commencé à en avoir, parce qu'il faut savoir que je suis très brune et portugaise d'origine. Et du coup, j'ai assez rapidement, je me suis dit que c'était pas normal justement d'en avoir, et je pense que ça a vraiment, le fait de pas avoir de représentation de femmes poilues, ça a vraiment fait que pour moi c'était anormal de voir une femme poilue. Du coup, j'ai assez vite voulu effacer mes poils. C'est-à-dire que je ne voulais plus les voir et j'ai assez vite, du coup, essayé de rentrer dans une case où peut-être que si j'avais eu, une maman qui ne se rasait pas, qui avait des poils aux jambes ou que j'avais vu à la télé des enfants avec des poils au bras ou sur le ventre, etc., peut-être que j'aurais pas ressenti ce besoin parce qu'en soi, moi, avant que je m'en rende compte que c'était anormal, je pense que enfin c'était tout à fait neutre comme les sourcils ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que j'ai assez vite commencé à me décolorer les poils genre sur le ventre, ce qui fait que c'était affreux parce que j'avais 10 ans et une sorte de marque blanche décolorée sur la peau, parce que bien sûr quand tu décolores les 3 poils que t'as sur le bidou, bah ça décolore toute ta peau, mais sauf que je préférais avoir une grosse marque blanche que des poils, ça me paraissait moins altérisant par rapport à ce que je connaissais en fait.
Jessie.
Bah bien sûr que ça a construit un rapport entre le poil et moi de dégoût. Peut-être pas de dégoût à ce point-là, mais en tout cas de ouais que si je voulais plaire en fait, je pouvais pas avoir de poils quoi. Et en fait, c'est juste que je dis de dégoût. Enfin, tout à l'heure j'ai dit de dégoût et pour moi le mot était un peu fort, mais c'est que encore une fois, c'est ce que je devais faire et je le faisais en fait. Sans me poser trop de questions. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Mais c'était la norme, en fait. En fait, j'avais intégré la norme, quoi.
Marine.
Est-ce que le fait de ne pas avoir de femme avec une pilosité normale, on va dire, m'a manqué ? Je ne sais pas trop, mais je sais que ça a grandement influencé la manière dont je perçois la pilosité aujourd'hui. Enfin, il y a quelques années, parce que j'ai cheminé aussi là-dessus sur ma représentation, mon propre corps et tout ça depuis quelques années. Mais je sais que encore aujourd'hui, j'ai des réactions inconscientes qui auraient peut-être pas été celles-ci si dès mon enfance, dès mon adolescence, j'avais vu des femmes avec des poils là où elles sont censées avoir des poils, quoi.
J'aborde dans ce podcast le souhait d'arrêter de s'épiler ou de le faire de moins en moins. Mais il est évident que chacune fait ce qu'elle veut, et surtout ce qu'elle peut avec son corps. J'ai bien conscience que je suis quelqu'un de privilégié. Je suis blanche, malgré mes origines algériennes, et je suis une femme cisgenre, valide et hétérosexuelle. Il est clairement plus simple pour moi que pour d'autres de prendre la décision de laisser pousser mes poils. Et il existe, bien sûr, de nombreuses femmes qui sont tout à fait heureuses en s'épilant ou en se rasant. Si j'ai choisi de raconter cette histoire, c'est parce que mon rapport au poil a été façonné très tôt par des injonctions, des remarques, des humiliations, parfois anodines en apparence mais profondément structurantes. Car sans vraiment m'en rendre compte, j'avais intégré une règle simple. Pour être une femme acceptable, il fallait traquer chaque poil, ne rien laisser dépasser, ne jamais donner prise au regard des autres. À ce moment-là de ma vie, l'épilation n'était pas encore une obsession. C'était juste une habitude, un automatisme, une norme. Je pensais avoir appris à gérer mes poils. Mais je ne savais pas encore que, quelques années plus tard, ils allaient devenir un enjeu beaucoup plus violent. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de sexualité, de honte et de la façon dont le regard des autres peut transformer un corps en champ de bataille. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Pilophobe s'abstenir. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram, NaïlaHKM. À bientôt!